RFI, 6h30 en temps universel, 7h30 à Abuja.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublanche. À la une, Vincent, les réunions préparatoires s'enchaînent au siège de la CEDEAO.
Oui, avant le sommet des dirigeants, dimanche à Abuja, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation sont en conclave. Aujourd'hui, revue de détail des sujets sur la table dans une minute. Autre sommet, en miroir finalement, sommet de ceux qui veulent quitter la CEDEAO, Mali, Faso, Niger. Premier sommet des chefs d'État de l'AES à Niamey. Demain, on va en parler. On évoque aussi le rapport issu des tables rondes sur la réforme de la justice au Sénégal. Il a été déposé sur le bureau du président Bassirou Diomaye Faye hier. Et puis la montée en puissance de la force tranquille. Hugues Fabrice Zongo, le triple sauteur burkinabé qui prépare tranquillement les Jeux Olympiques de Paris. Les chefs de la diplomatie des pays membres de la CEDEAO se réunissent donc aujourd'hui au siège de l'organisation sous-régionale à Abuja, prélude au sommet des chefs d'État ce dimanche dans la capitale fédérale du Nigeria. Notre envoyé spécial Serge Daniel nous détaille les enjeux.
La santé de l'organisation régionale est fragile, a reconnu devant les ministres des Affaires étrangères le président de la commission de la CEDEAO, Omar Ali Touré. Énumère, sur le plan sécuritaire par exemple, impossible jusque-là de mettre sur pied une force antiterroriste opérationnelle. En plus, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui constituent dans le Sahel l'épicentre de la lutte contre les djihadistes, ont claqué la porte de l'organisation et malgré l'assouplissement des sanctions contre eux, la situation est toujours bloquée. Ce dossier reste un caillou dans la chaussure de la CEDEAO. Il y a à Abuja ceux qui demandent de prendre acte de la rupture avec ces trois pays et d'assumer les conséquences, et d'autres pays qui plaident encore pour des négociations. Sur un autre sujet, le plan de développement des pays membres de l'espace CEDEAO est de plus en plus remis en question. Outre le terrorisme, il faut compter avec l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes. Pour bon nombre de délégués ici présents, l'heure n'est plus au discours. La CEDEAO est en train de devenir de plus en plus une coquille vide. Il faut agir, a-t-on entendu, dans les couloirs de la réunion. Serge Daniel, Abuja, RFI.
Eux ne seront pas à Abuja. Il faut dire qu'ils ont dit et répété qu'ils veulent quitter la CEDEAO.
Les chefs des juntes au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger se sont donné rendez-vous à Ouagadougou. Très symbolique premier sommet au plus haut niveau pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Ce sera demain. Mais le capitaine Traoré du Faso et le colonel Goïta du Mali arrivent dès aujourd'hui. Les précisions de Polycarpe Samba.
À Niamey, le mot d'ordre est passé. Pour ce premier sommet de l'AES annoncé comme un événement historique, les populations ont été invitées à sortir massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région. Niamey entend en effet marquer le coup et donner une impulsion à cette jeune organisation dont les chefs respectifs sont arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023 par des coups d'État. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, ex-puissance colonisatrice, et à la CEDEAO, qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leur bataille contre les djihadistes. Malgré cette prise de distance, plusieurs chefs d'État de la région continuent d'appeler au dialogue entre les deux blocs. C'est notamment le cas de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, qui, à peine installé au pouvoir à Dakar, avait fin mai jugé possible une réconciliation entre la CEDEAO et l'AES.
Et alors que le président de transition du Mali est attendu à Niamey, aujourd'hui donc l'armée malienne au Mali est accusée de nouvelles exactions. Une soixantaine de corps ont été retrouvés près d'Abeille Bara, c'est dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. D'après les sources locales que nous avons jointes, il s'agit presque exclusivement de civils. Ils ont été tués par l'armée malienne et par ses supplétifs, ex-Wagner, désormais incorporé à l'African Corps, repris en main par les autorités russes. David Bachet a enquêté.
Ils ont été retrouvés ces derniers jours dans un rayon d'environ 40 km autour d'Abeille Bara. Certains regroupés dans des fosses communes, d'autres éparpillés en brousse, isolés, ligotés. Selon les sources jointes par RFI, Association de défense des droits humains Kalakal, membres de la rébellion du CSP ou notables locaux, l'armée malienne et Wagner ont mené une vaste opération au cours des deux dernières semaines du mois de juin. Les convois sont venus de Kidal et Tessalit. Ils ont nettoyé la zone, détaillent ces sources. Parmi la soixantaine de personnes tuées, un rebelle du CSP et un à six djihadistes du JNIM, selon les versions. Tous les autres sont des civils, des bergers, assurent encore ces sources. Les victimes sont essentiellement des Touaregs, habitants de la zone ou déplacés internes. Ils n'ont pas été tués dans des combats, ce sont des exécutions. Une source sécuritaire malienne confirme « Ces fosses existent depuis longtemps, il y en a dans beaucoup d'endroits » et d'affirmer que seuls les Russes peuvent dire qui il y a dedans. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ces opérations et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.
David Bachich.
RFI, 6h35 à Nouakchott, où le Conseil constitutionnel a proclamé hier Mohamed Ouldrazouani vainqueur de la présidentielle samedi dernier.
Oui, il n'y avait pas eu de recours, donc les chiffres de la commission électorale sont validés, 56,1% des suffrages. Des émeutes avaient éclaté en début de semaine qui avaient fait 3 morts d'après le bilan officiel. Le nouveau mandat du président Razouani débutera le 2 août prochain. C'est au large des côtes de la Mauritanie que leur embarcation a chaviré. 89 migrants au moins sont décédés lundi, on l'a appris hier. Les gardes-côtes mauritaniens ont retrouvé les corps sans vie et le bateau chaviré en mer à 4 km de la ville mauritanienne de Ndiago. Les exilés étaient partis du Sénégal.
Le Sénégal, Vincent, est ce premier exemple de la volonté affichée depuis son élection par le président Diomaye Faye de revoir les contrats conclus avec des groupes internationaux dans certains secteurs jugés stratégiques.
Oui, le gouvernement sénégalais dénonce un accord signé par le président Macky Sall dans les derniers jours de son mandat avec la société saoudienne Aqua Power. L'objet du contrat, c'était la construction d'une usine de dessalement d'eau près du lac Rose à Dakar. Investissement environ 700 millions d'euros. L'idée était ensuite de vendre l'eau potable, au Sénégal, mais cela reviendrait trop cher à moyen et long terme, disent les nouvelles autorités sénégalaises. Quelle réforme pour la justice au Sénégal ? On en avait largement parlé sur RFI, des universitaires, des magistrats, des avocats, d'anciens détenus, des membres d'organisations de défense des droits humains s'étaient réunis pendant plusieurs jours près de Dakar, fin mai, début juin. 30 recommandations en sont sorties et elles ont été remises officiellement hier au président de la République, Léa-Lisa Vesterhoff.
Décoloniser les symboles de la justice, la robe, le glaive ou la balance, toute cette imagerie héritée du système judiciaire français doit changer au profit d'un référentiel africain, estiment les participants à ces assises. Autre consensus, créer une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel actuel, une cour plus indépendante du pouvoir avec des juges élus et non nommés par le président, mais aussi la possibilité de s'autosaisir. Autre recommandation, celle de créer un juge des libertés pour éviter le recours quasi systématique à la détention préventive. Même objectif avec la demande d'encadrer le retour de parquet pour éviter les longues détentions en garde à vue de plus de 96 heures, par exemple, encore fréquentes. Enfin, il est un point sur lequel les participants ne sont pas tombés d'accord sur la réforme du Conseil des magistrats. Faut-il que le président de la République en reste membre ou le quitte ? Si la plupart des membres de la société civile prônent un retrait du président pour plus d'indépendance de cette institution, les magistrats, eux, estiment qu'il devrait rester à sa tête. C'est l'un des points sur lequel Bassirou Diomaye Faye va devoir trancher lui-même. Hier, il a promis d'appliquer toutes les propositions de réforme qui font consensus, sans calendrier pour le moment. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Lomé, 91.5 FM.
La capitale du Togo, où est arrivée hier la dépouille de l'ancien Premier ministre, puis opposant Agbeyome Kodjo.
Il est décédé en exil en mars dernier au Ghana. Au poste frontière d'Aflao, des membres de sa famille, quelques proches, étaient rassemblés. Notre correspondant Peter Sassou Dogbe y était.
La dépouille de Gabriel Agbeyome Kodjo a traversé la frontière du Ghana. Ses enfants et des membres de la famille l'accompagnaient. Du côté togolais, des proches et collaborateurs attendaient, parmi eux, Jonas Siliadin, ancien chef de cabinet alors qu'il était encore Premier ministre du Togo.
Nous vivons un jour particulier et c'est un grand soulagement pour nous qu'il puisse rentrer et reposer en paix sur cette terre qu'il a tellement aimée, qu'il a accepté de donner sa vie pour ce qu'il croit être son bonheur.
La dépouille a traversé la ville jusqu'à son domicile où les parents et les membres de sa famille l'accueillent.
Obédié est grand et fait grâce et tu l'as écrit en gros caractère. C'est la dernière phrase que tu m'as envoyée. Dieu est grand et fait grâce.
Gabriel Agbeyome Kodjo, officiellement arrivé deuxième à la présidentielle de 2020, a continué de réclamer sa victoire jusqu'à sa mort le 3 mars dernier. Et ce vendredi soir, une messe veillée publique se tiendra à la paroisse universitaire de Saint-Jean. Et samedi, c'est dans l'intimité familiale que Gabriel Agbeyome-Kodjo sera inhumé dans sa terre natale à Tokli. Aucune cérémonie officielle n'est prévue pour celui qui fut ministre, président de l'Assemblée nationale et premier ministre avant de devenir un fervent opposant. Peter Sassou Nguelomé, RFI.
Au Ghana, le vice-président, candidat aussi du parti au pouvoir à l'élection présidentielle de décembre, Mahamudu Bawumia, a choisi hier son colistier. C'est le ministre de l'énergie, Mathieu Opoku Prempeh. Le conseil exécutif national du parti a approuvé ce choix à l'unanimité. Mathieu Prempeh est originaire de la région Ashanti, bastion du NPP.
Autre élection, et l'on est en plein milieu, ce sont les législatives en France. Le second tour, c'est dimanche, et cela vaut pour les circonscriptions représentant les Françaises et Français vivant à l'étranger.
On parlait hier de la 10e circonscription. Ce matin, nous sommes dans la 9e. Elle couvre le Maghreb et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. 155 000 électeurs et électrices en tout, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal par exemple. Ils vont devoir départager Karim Ben Cher, député sortant du Nouveau Front Populaire, la gauche, qui a recueilli 51,6% des suffrages au premier tour, mais avec une participation trop faible pour être élu. Face à lui, Samira Djaoudi de la coalition présidentielle. RFI vous propose d'écouter leur profession de foi. On commence avec celle de Karim Ben Cher.
Quand on parle des Français de l'étranger, généralement on parle de questions budgétaires et de démantèlement du service public. Les Français de l'étranger, moi je le dis toujours, sont à l'avant-garde quelque part du démantèlement du service public. Sur les 30 dernières années, les budgets associés ont été divisés par deux, les ressources humaines associées ont été divisées par deux. En tout et pour tout, si vous faites l'addition de tout ce qui est minima sociaux versés aux Français de l'étranger, on est sur 15 millions d'euros pour 2,5 millions de Français établis à l'étranger. Vous savez, la couverture sociale pour les Français de l'étranger, elle peut se faire à travers la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse de sécurité sociale. Sauf qu'aujourd'hui, cette caisse de sécurité sociale, on lui donne une mission de service public, c'est-à-dire prendre l'ensemble des Français qui souhaitent être couverts. Par contre, elle n'est pas du tout aidée par l'État. Ça lui coûte à peu près 25 millions d'euros par an et reçoit en contrepartie par l'État 380 000 euros. Donc là, il y a un déséquilibre complet de cette caisse et ça serait bien que nous puissions penser à de nouveaux modes de financement qui permettent à minima de compenser sa mission de service public.
Et écoutons maintenant la représentante de la coalition présidentielle candidate dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger, Samira Djaoudi.
Quand on vient dans un pays étranger, on a envie que la scolarité de nos enfants soit digne de celle qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Il faut savoir, hein, et souvent dans l'Hexagone, on n'en a pas conscience, les études à l'étranger, même dans les écoles françaises, elles sont payantes et elles coûtent parfois très 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 cher. Je n'irai pas dans de la démagogie en disant que je cherche la gratuité. La gratuité est quasiment impossible. Mais par contre, qu'on puisse obtenir beaucoup plus de bourses qui vont permettre aussi d'atténuer les frais de scolarité pour les familles françaises. Il y a un travail à établir avec la personne qui sera à la tête du ministère de l'Éducation nationale pour flécher des budgets vers cet enseignement dans les écoles françaises. On accepte d'envoyer des professeurs, mais on ne va pas jusqu'à réfléchir à un budget pour que cette égalité existe entre les écoles françaises à l'étranger et les écoles dans l'Hexagone. Donc là, il y a un vrai sujet, une vraie préoccupation et inquiétude.
Un dossier signé Guillaume Fabry. Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad, Sénégal, Burkina, Malawi, Burundi, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini. Voilà quelques groupes des qualifs de la prochaine CAN qui débutera en septembre. On en parle en détail dans le prochain journal des sports dans une heure. On va terminer avec l'athlétisme. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui continue de préparer les Jeux Olympiques de Paris. Il sautait hier au meeting de Sotteville dans l'ouest de la France. 17,38 m, c'est bien, c'est mieux 20 cm de mieux que son titre de champion d'Afrique il y a quelques jours.
Voilà, nous sommes à un mois des Jeux, donc nous passons vraiment au travail très très spécifique. Il y a des sauts qui sont très très beaux, des sauts qui peuvent aller vraiment très très loin, des sauts qui peuvent aller facile avec ces mêmes intentions de saut, qui peuvent aller facile à 17,80, 18 mètres même. Mais voilà, il y avait des choses qui manquaient, des éléments techniques comme je dis, mais franchement on a un mois pour bosser ça, je ne m'en fais pas du tout quoi. Si je veux gagner, il faut bien que je passe les 18 donc, et je veux gagner, donc je vais passer les 18.
Propos recueillis par Baptiste Leduc.
Merci Vincent Dublange.